Et l'on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des dizaines de dirigeants du monde entier se réunissent aujourd'hui à Jérusalem pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne où 1 million de juifs ont été exterminés. Témoignage dans ce journal d'une rescapée. La colère présidentielle d'Emmanuel Macron en ouverture de tous les journaux hier soir. Vous en parliez, Guillaume Erner, à l'instant. Nous entendrons le président français contre les forces de sécurité israéliennes dans ce journal.
Et puis à la une en France, après des semaines de grève, la CGT agit tout azimut contre le projet de réforme des retraites, avec notamment le blocage des ports ou encore des coupures d'électricité sauvages, Catherine.
Et nous nous demanderons si le leader de la CGT, Philippe Martinez, n'est pas dépassé par sa base. Nous irons également en Allemagne, où 3,5 millions de personnes cumulent plusieurs emplois, selon des chiffres officiels que vient de communiquer l'Agence fédérale pour l'emploi à Berlin, des emplois de mauvaise qualité. À suivre également, à quelques semaines maintenant des élections municipales, après Lyon, Rouen, Lille, Perpignan et Bordeaux, le reportage de la rédaction à 7h24 nous emmènera à Paris et dans ce journal, nous entendrons l'adjoint à la mairie de Paris, Paul Simondon, chargé de la propreté.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, les troubles sociaux ont-ils une incidence sur la santé mentale? On posera la question à Antoine Pellissolo, il est psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil.
L'image restera comme celle de Jacques Chirac il y a 24 ans. Emmanuel Macron en colère hier face aux forces de sécurité israéliennes à l'entrée de la basilique Sainte-Anne à Jérusalem, domaine français, où des policiers voulaient entrer armés. Parenthèse refermée, a déclaré Emmanuel Macron hier soir avant de participer aujourd'hui aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Mais le président français continue pour son coup de colère de faire la une en Israël, Frédéric Mettezo.
La colère présidentielle en ouverture de tous les journaux hier soir, alors qu'Israël attendait depuis des mois les cérémonies de Yad Vashem, Emmanuel Macron à Sainte-Anne a fait jeu égal avec les images du dîner d'État avec les dirigeants du monde entier.
Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. I'm sorry, but we know the rules.
Tout le monde connaît les règles. Je n'aime pas ce que vous faites devant moi. Je suis désolé. Vous connaissez les lois. Personne ne doit provoquer personne, ok? On reste calme. On a une super promenade. S'il vous plaît, respectez les lois. Elles sont séculaires, elles ne changeront pas avec moi, je peux vous le dire. Donc tout le monde respecte les lois, ok?
Dans la vieille ville, les habitants arabes, comme Nafez et Ahmed, ont apprécié la déambulation d'Emmanuel Macron.
J'espère qu'il va bien faire. Tous les présidents s'alignent sur l'Amérique. Ce que l'Amérique dit, ils le font à 100%. J'espère que les Français redeviendront comme au siècle de Charles de Gaulle.
Jacques Chirac était déjà passé ici. Il a fait pareil. J'étais là. Nous sommes ravis que Macron vienne à Jérusalem-Est.
Côté israélien, la police a publié un étrange communiqué affirmant qu'Emmanuel Macron a présenté ses excuses, ce qui n'est pas le cas. Hier soir, le président français a retrouvé son homologue israélien au dîner. Le site du journal de gauche Haaretz a mis à la une photo des deux hommes, main dans la main. Le Jérusalem Post de droite souligne lui l'importance du passage d'Emmanuel Macron au mur des lamentations. Place aujourd'hui aux cérémonies du souvenir que l'incident d'hier n'aura pas bouleversé.
Et en cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, Emmanuel Macron, donc Vladimir Poutine, feront partie de la quarantaine de dirigeants du monde entier qui marqueront en Israël le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'armée rouge, un camp polonais où 1 million de juifs sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, seul camp où les nazis ont envoyé des juifs de toute l'Europe. Parmi les rescapés du camp d'Auschwitz, Ginette Kolinka, arrêtée à Avignon début 44, transférée à Drancy, déportée avec son père, son frère et son neveu à Auschwitz. Le voyage entassé comme des bêtes dans des wagons va durer 3 jours. À presque 95 ans aujourd'hui, Ginette Kolinka continue de témoigner presque tous les jours dans les collèges et lycées de France. Elle accompagne très régulièrement des élèves aussi lors de voyages à Auschwitz. Si ses souvenirs sont intacts, elle ne retrouve pas sur place la trace de l'enfer qu'elle a vécu.
Moi, je dis que quand on y va, nous, en tant que déportés, c'est un décor. Les déportés, c'est la saleté, c'est l'odeur, ça grouille de partout. C'est terminé, ça. Tout est propre, tout est net. À Birkenau, on ne voit rien. Les nazis se sont débrouillés pour qu'il n'y ait pas une seule trace de mort. Vous ne verrez pas une seule tombe. À Birkenau, on ne voit rien, on ressent. Et pour ressentir, il faut être au courant un peu de ce qui s'est passé. Mais des élèves qui viennent pour voir ce que c'est qu'un camp, je ne sais pas ce qu'ils ressentent. Parce qu'à Birkenau, on ne voit rien.
Ginette Kolinka qui témoignait au micro de Victor Maté. Se souvenir et lutter aussi contre l'antisémitisme contemporain, c'est tout l'objet de la visite donc de cette quarantaine de dirigeants attendus, je le disais, en Israël aujourd'hui. Les dirigeants israéliens, eux, n'hésitent pas à invoquer une éventuelle menace nucléaire ou balistique iranienne qui voudrait anéantir Israël dans une sorte de Shoah actuelle. Mais pour le grand historien israélien et ancien ambassadeur de France, Eli Barnavi, il faut être prudent dans l'utilisation de la Shoah dans les discours politiques actuels. Il ne faut pas mélanger les époques.
Cette nouvelle Shoah dont on parle est évidemment fantasmatique. C'est largement abusif. Israël est une énorme puissance. Nous sommes une puissance militaire, économique, culturelle, scientifique. Cela dit, il y a chez les Iraniens, il y a une volonté génocidaire. Ils l'annoncent tous les jours. Maintenant, il faut savoir ce que nous voulons faire. On ne fait pas un renseignement pareil pour parer la menace iranienne, ça n'a pas de sens. Si la Shoah est là pour dire nous avons des leçons à tirer en tant que juifs, en tant qu'être humain, pour considérer l'autre, c'est une chose. Si ça nous libère de toute obligation morale, c'est non. Et évidemment, il y a un peu de cette manière de dire nous avons été martyrisés, vous n'avez pas le droit de nous critiquer. Il y a un usage noble de la Shoah. Ce n'est pas toujours le cas.
Le grand historien israélien Eli Barnavi, ancien ambassadeur du pays en France, au micro de Frédéric Mettezo.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Après avoir annulé les traditionnels vœux au monde de la culture en début de semaine, le ministre Franck Riester accorde un long entretien au quotidien Libération où il revient sur les dossiers sensibles qui s'accumulent sur son bureau.
Le ministre de la Culture se dit à l'écoute de celles et ceux qui ont des choses à dire, y compris avec mécontentement et indignation sur la grève à Radio France qui dure depuis 52 jours maintenant, du jamais vu pour la Maison Ronde, avec des syndicats qui dénoncent un plan de 60 millions d'euros d'économie présenté par la direction, assorti de 299 suppressions de postes. Franck Riester le répète ce matin, le plan proposé par la direction semble aller dans le bon sens, celui de la modernisation, et d'accorder de nouveau sa confiance à la PDG Sybille Veil. Le ministre assume de dire que chacun doit faire des efforts et de revenir par ailleurs sur le régime des retraites spécifiques à l'Opéra de Paris. Une sortie de l'Opéra avec mise à la retraite à 42 ans pour les danseurs du ballet n'est pas une bonne solution. Il faut les accompagner dans une reconversion. La question des retraites, encore à la veille de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, la CGT Énergie vient d'annoncer qu'elle allait mettre à l'arrêt 3 centres d'incinération des déchets en Île-de-France à partir de ce soir. Des coupures d'électricité sauvages que le gouvernement s'est engagé à sanctionner pour atteinte à l'esprit du service public. 2 agents d'Enedis ont d'ailleurs été placés en garde à vue hier en Dordogne. Et le ton monte entre le gouvernement et la CGT de Philippe Martinez, peut-être dépassé par la base, mais le leader de la CGT est devenu l'homme fort de la contestation, Annabelle Grelier.
Début décembre, il rendait visite aux cheminots de la gare de Lyon. Pendant les vacances de Noël, il distribuait des tracts devant les grands magasins parisiens. Puis en janvier, il était aux côtés des grévistes de la RATP à Vitry-sur-Seine. Tel un commandant des armées venu soutenir ses troupes, Philippe Martinez est sur le terrain, là où gronde la colère, aux côtés des militants et des manifestants. C'est grâce à ce mouvement social, à la mobilisation de tous, que nous allons les faire céder, lançait-il hier à Gravelines aux grévistes de la centrale nucléaire. Philippe Martinez revendique et assume. Ce n'est pas de la délinquance. Quand il y a des gens en grève, il y a des conséquences, justifie-t-il. Alors que le gouvernement misait sur un essoufflement du mouvement et le retour à la normale des transports, le voilà qui prend une autre forme à travers des actions ciblées à coups de coupures d'électricité et de ports bloqués. Alors qu'Édouard Philippe pensait qu'il suffirait de ramener Laurent Berger de la CFDT à sa cause pour éteindre le conflit, voilà que c'est le patron de la CGT qui devient l'homme fort, la tête de proue de la contestation. Une contestation dont il est le moteur, qui entraîne avec lui des avocats qui jettent leurs robes et perturbent les audiences des tribunaux, des agents de la fonction publique qui jettent casques, crayons et ordinateurs devant le ministère des Finances, des médecins qui démissionnent, des musiciens de l'opéra qui annulent des concerts, quand ce ne sont pas les gilets jaunes qui s'en mêlent. L'impensable pourrait-il arriver? Édouard Philippe va-t-il devoir tendre la main à la CGT? L'opinion publique n'y semble pas hostile. Selon un sondage Elabe publié hier soir sur BFM TV, plus de 6 Français sur 10 considèrent qu'Emmanuel Macron devrait retirer la réforme. Une opinion en hausse de 4 points en un mois.
L'emploi outre-Rhin, à présent 3,5 millions d'Allemands cumulent plusieurs emplois selon des chiffres officiels que vient de publier l'Agence fédérale pour l'emploi à Berlin. Dans la plupart des cas, cet emploi principal ne permet pas aux Allemands de vivre décemment, Nathalie Versieux.
Ils sont éducateurs de jeunes enfants, aides-soignants ou policiers. Le soir, ils font des ménages ou entraînent les enfants du club de foot voisin dans le cadre de mini-jobs, rémunérés 450 euros par mois sans cotisation sociale. La plupart le font pour des raisons financières et travaillent ainsi 50 à 60 heures par semaine. Les femmes et les personnes issues de l'immigration sont surreprésentées. Pour les syndicats et les néo-communistes, la situation est d'autant plus inquiétante que le nombre de ces personnes cumulant plusieurs emplois, ne cesse d'augmenter. Entre 2003 et 2017, leur nombre a ainsi doublé. L'introduction du salaire minimum en 2015 n'y a rien changé. Pour la Confédération syndicale DGB, l'évolution est liée au fait que de moins en moins de patrons respectent les conventions collectives négociées à intervalles réguliers par patronat et syndicats. Die Linke, le parti néo-communiste, réclame lui l'augmentation du salaire minimum de 9,35 € de l'heure aujourd'hui à 12 euros.
Nathalie Versieux à Berlin pour France Culture. Retour en France avec France Culture qui poursuit son tour de l'Hexagone pour les municipales après Lyon, Rouen, Lille, Perpignan et Bordeaux. Le reportage de la rédaction nous emmènera à Paris à 7h24. Et dans la capitale, l'un des enjeux de cette campagne, c'est la propreté. Certains opposants à la maire sortante, Anne Hidalgo, l'accusent d'avoir baissé le budget alloué à cette question. Faux, répond Paul Simondon, adjoint à la mairie de Paris, chargée justement de la propreté et de la gestion des déchets.
La propreté depuis 2014, c'est plus de moyens, avec 250 agents en plus, un budget de près de 600 millions d'euros par an. Mais c'est aussi une modernisation, c'est-à-dire que tous nos engins de propreté, les petites balayeuses, aspiratrices, les bennes pour ramasser les ordures, ont été changés pour sortir du diesel. Donc il y a eu 200 millions d'euros d'investis sur la propreté dans cette mandature. C'est extrêmement important. Paris est la ville qui a investi le plus en la matière. On a changé nos corbeilles de rue. On a mis des corbeilles compactantes pour les lieux les plus fréquentés qui vont fonctionner à énergie solaire. On a mis aussi des corbeilles qui sont résistantes aux rongeurs pour que les rats ne puissent plus venir grignoter les sacs et laisser les déchets se répandre au sol. On a mis des cendriers sur toutes ces nouvelles corbeilles. On a aussi innové sur la manière de travailler. On a mis en place des équipes urgence propreté dans chaque arrondissement. Et on a, en termes d'innovation, utilisé des nouveaux matériels qui sont l'équivalent de gros aspirateurs électriques qu'on utilise sur les trottoirs. Alors, ce sont les petits glutons qui permettent d'être beaucoup plus efficaces.
Paul Simondon, adjoint à la mairie de Paris, il répondait à Rosalie Lafarge qui signe le reportage de la rédaction à suivre à 7h24 à Paris. La propreté fait tâche, à suivre également sur franceculture.fr. Le temps de ce jeudi 23 janvier, toujours marqué par cette vigilance rouge pour crue dans les Pyrénées-Orientales, département où la tempête Gloria a provoqué l'évacuation de 1500 personnes. Sur le reste de l'Hexagone, les températures sont comprises ce matin entre moins 3 et 2 degrés dans le nord-est du pays, comptait de 3 à 12 degrés partout ailleurs.
Guillaume. Merci Catherine Dutu, 7h13, troubles sociaux et santé mentale dans quelques instants. Restez à l'écoute.